Il est 8h29 minutes. Mathieu Roy, bonjour.
Bonjour, Louis.
Et parlons, bien sûr, cette semaine de Apollo 11, dont on souligne le 50e anniversaire. Il y aura plein d'événements, d'ailleurs, hein, cette semaine pour le souligner.
Absolument. Ça va être des documentaires à la télévision, ça va être des rétrospectives, ça va être des podcasts, des émissions de radio où il en sera question, c'est certain. Mais évidemment, le web est un endroit absolument spectaculaire parce qu'évidemment, avec l'avènement de sites comme Flickr pour le stockage de photos ou encore YouTube, eh ben la NASA a des archives extraordinaires qu'elle peut partager. Et dans mes lectures du jour, j'ai trouvé ça absolument...
Des archives, des fausses archives, là, parce que...
Ah oui, mais moi, j'adore la créativité des gens qui ne croient pas qu'on est allé sur la Lune.
Exact.
Puis des fois, je me dis, ces gens-là font juste ça pour nous faire choquer. J'avais vu, moi, une espèce de documentaire et je trouvais ça super intéressant de voir comment ils arrivaient à essayer de déconstruire chacune des preuves que la NASA proposait. Et mais non, c'est intéressant. Mais bon, précisons que Louis est sarcastique, comment que je me trompe.
Bien sûr, oui.
Ma lecture n'était pas mauvaise.
Gros, non, non.
Mais ce qui était le fun ce matin, c'est d'un côté un peu plus techno, c'est de constater la puissance extrêmement limitée de l'ordinateur qui était à côté des astronautes lors de la mission Apollo 11. Ça s'appelait le Apollo Guidance Computer, le AGC, des millions de fois moins puissant qu'un téléphone intelligent qu'on a aujourd'hui, là. Imaginez un téléphone à 200$ que vous achetez sur un site de petites annonces. À 200$, c'était infiniment déjà plus puissant que l'ordinateur qu'ils ont utilisé. Il y a eu des révolutions qui ont mené justement à la création de cet ordinateur-là. Les puces électroniques, c'était essentiel parce que ça contribuait à la miniaturisation qui était requise pour pouvoir embarquer un ordinateur à bord d'une fusée comme ça. Et ce qui est aujourd'hui un acquis, mais le multitâche, donc un ordinateur qui était capable de faire plusieurs tâches à la fois, c'était quand même grandiose pour l'époque. Les premiers ordinateurs faisaient seulement des calculs qui étaient finalement en série et non pas en parallèle. Et l'ordinateur des missions Apollo devait évidemment jongler avec plein de tâches, la navigation, gestion de l'oxygène, de la température, bref, plein d'autres choses. Et donc, souvent, quand on faisait des séries de calculs, il fallait attendre des heures, des fois des jours, alors que là, Apollo avait pas cette espèce de luxe-là. Donc, on a réussi à créer des ordinateurs qui faisaient du multitâche. Et aujourd'hui, et dans les prochains jours, si vous allez sur les médias sociaux, que ce soit sur les comptes de la NASA, sur YouTube, Twitter, Facebook ou Instagram, il y a beaucoup de clins d'œil comme ça à cette mission ô combien marquante qui a mené l'homme sur la Lune. Des archives sonores, des archives vidéo, des documentaires. Et la NASA, c'est pas seulement la NASA comme telle. Il y a aussi NASA Aeronautics, il y a le Johnson Space Center, il y a le Kennedy Space Center, il y a NASA Moon, qui sont pleins de comptes qui sont hyper intéressants à suivre et qui montrent bien un peu, j'ai envie de dire, la vulnérabilité de ces astronautes-là. Parce que quand tu regardes leurs habits, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'habille de manière plus sécuritaire quand on va faire de la motoneige, Louis. C'est incroyable. Et je te fais entendre une sonification où on a pris des données comme ça des dernières années de la conquête spatiale et on a transformé ça en signaux acoustiques. Donc, dans l'extrait que tu vas entendre, chaque clic d'horloge représente un mois. Chaque coup de snare ou de caisse claire, c'est une année. Et les cymbales, ça représente des lancements de fusées. Et on a jumelé à ça sur YouTube des images d'archives et des extraits. Je vais faire entendre un bref extrait. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Liftoff. We have liftoff. Donc,
alors, qu'est-ce qu'on essaie d'illustrer, là?
On essaie d'illustrer, dans le fond, l'histoire en son des lancements des différentes missions spatiales de la NASA. Donc, évidemment, en visuel, c'est encore plus intéressant parce qu'on a des images d'archives qui viennent se superposer, mais à chaque fois que tu entendais une cymbale, c'était une fusée qui décollait, et à chaque fois qu'on entendait un coup de caisse claire, c'était une année qui se passait. Donc, c'est une espèce de visualisation sonore de tout ça, mais allez faire un tour, il y a vraiment des archives hyper intéressantes sur les différents sites que la NASA opère en ce moment. Il y a une transparence assez phénoménale, faut dire, depuis quelques années.
Ouais, finalement, le Google Home retient lui aussi un peu trop d'informations sur nous.
Oui, on a reconnu en fin de semaine dernière que effectivement certains membres du personnel avaient accès aux enregistrements de l'assistant Google et que l'assistant pouvait enregistrer des conversations par erreur sans qu'on l'ait nous-mêmes activé. Ça peut se faire quand, mettons, il y a un bruit qui est interprété ou encore des mots qui sont interprétés comme étant le mot déclencheur. Ça arrive avec Amazon et c'est très certainement déjà arrivé avec aussi Apple. Mais le problème ici, c'est que il y a des employés de Google qui peuvent avoir accès, donc certains membres du personnel qui peuvent avoir accès à des enregistrements de l'assistant Google. Maintenant, ça m'apparaît plutôt légitime que des spécialistes écoutent des enregistrements de nos assistants vocaux pour les améliorer, pour mieux comprendre ce que l'on demande. C'est un travail qui me semble nécessaire, mais ça doit se faire dans des conditions extrêmement sécurisées. Oui. Google a réagi en disant que il y avait que certains membres de son personnel qui avaient accès à 0,2% des enregistrements et que les enregistrements ne sont jamais associés à des comptes d'utilisateurs. Donc, ça veut dire que oui, on peut écouter ou avoir accès à quelque chose pour améliorer le service. Cependant, on peut pas savoir d'où vient l'enregistrement qu'on est en train d'écouter. Oui. Je pense que si on veut améliorer ce genre d'assistant, on n'a pas le choix d'avoir un facteur humain qui va servir à justement améliorer tout ça. Mais encore une fois, tout est une question de sécurité. Dans ce cas-ci, je ne crois pas que les employés de Google puissent avoir accès à toutes ces données en entrant dans une pièce avec une clé USB et ressortir avec presque 3 millions de données. Je ne pense pas que ça se produise.
Juste chez Desjardins que ça arrive, ça.
C'est ça. Bon, mais après Amazon, c'est Google qui a été pointé du doigt en fin de semaine.
Bon, l'intelligence artificielle arrive maintenant à battre l'humain au poker.
Ouais, écoute, ils avaient déjà, on s'était déjà attaqué à ça. C'est l'université de Carnegie Mellon et Facebook, puisque c'est un département qui travaille de pair avec eux. Donc après, les tic-tac-toe, le jeu de dames, les échecs, Jeopardy, les jeux vidéo, le jeu de Go, c'est maintenant le poker. L'intelligence artificielle s'appelle Pluribus. Et lorsqu'on avait fait des tests et des essais il y a quelques années, on jouait à ce qu'on appelle un heads-up. Donc, on jouait contre des joueurs professionnels de poker, mais seulement un contre un. Alors que le poker, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le poker, ça se joue souvent jusqu'à 10 personnes autour d'une même table. Eh bien là, c'est ce qu'on a fait. On a opposé l'intelligence artificielle à 13 professionnels. On l'a fait jouer 5 à la fois, donc il était contre 5 joueurs. Il a joué à peu près là des dizaines de milliers de parties et il a été gagnant la plupart du temps. On l'a fait jouer à une variante du poker qui s'appelle le Texas Hold'em qui se joue avec 2 cartes et on l'a laissé lui-même développer ses tactiques. Et ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'il arrivait à utiliser plusieurs stratégies de façon aléatoire. Ce que nous, en tant que joueurs de poker, ben là, je m'inclus en tant que joueur parce que j'aime bien le poker, mais on essaie de faire, mais évidemment, on est souvent, c'est rarement aléatoire les stratégies qu'on va utiliser, on va les réfléchir. Mais donc, l'ordinateur a réussi à développer des stratégies et à les appliquer de manière aléatoire. Donc, après des blues aux échecs, Watson au jeu questionnaire Jeopardy, AlphaGo au jeu de Go, on peut peut-être ajouter Pluribus, qui maintenant, c'est une étape vraiment majeur pour l'intelligence artificielle, pour toute cette théorie des jeux. Et c'est pas anecdotique si on sort la nouvelle aujourd'hui, ou en tout cas dans les derniers jours, c'est qu'on est en plein événement principal aussi à Las Vegas, au World Series of Poker. Je sais pas si tu es toi-même joueur.
Non, pas du tout. Je joue à aucun jeu comme ça. Et je vais pas dans un casino non plus. Je passe la moitié de l'année à dire au gouvernement que j'ai pas d'argent. Alors, j'irai pas jouer devant ces caméras, certains.
On laisse jouer l'intelligence artificielle à notre place.
Exact. Merci, Mathieu.
De rien.